Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Je suis vraiment content d'être là, je suis dans la joie d'être avec vous, je suis impatient de ce que Dieu veut qu'on vive ensemble ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans la joie? Yes? Ok. Il y en a beaucoup qui sont là. On verra. On verra. Et j'ai beaucoup de joie aussi que Nishma, Benjamin et puis Adrien soient avec nous. Il manque pour moi toujours une quatrième personne de ce groupe, mais Adrien, on en parlera. C'est des amis que j'apprécie, qui sont chers à mon cœur, et puis c'est une joie de pouvoir passer des moments comme ça. C'est la beauté du royaume aussi, quand on peut se retrouver comme ça, puis chanter et louer Dieu ensemble. Ce matin, on va parler ensemble de la prière. Alors, j'aimerais poser d'abord en introduction deux choses que je suis quasiment sûr que chaque personne qui se revendique chrétienne, chrétien, simplement disciple de Jésus, vie par rapport à la prière. D'accord ? Deux choses, je suis sûr, tout le monde qui se dit chrétien vit ça. La première des choses, c'est une envie de prier. C'est comme si Dieu mettait dans notre cœur un désir où on a envie de prier. Je ne connais aucun chrétien qui dit, moi, je n'ai rien à faire de la prière, là, je n'ai pas envie de prier, c'est presque c'est fatigant, je dois prier même avant de manger. T'sais. Personne ne dit ça, on a une envie en nous de prier. Mais la deuxième chose qui va exactement avec celle-ci, qui est quasi universellement vrai aussi, c'est que pour la plupart, c'est difficile de prier. Donc il y a cette envie de prier d'un côté, puis il y a la réalité que c'est difficile. Puis on a commencé la semaine passée une série intitulée « Oser prier ». Puis c'est Jonas qui apportait le message la semaine passée. Son message avait pour titre « Seigneur, apprends-moi à prier ». Et tu sais, c'est bizarre parce que dans l'équipe pastorale, on parle, dans l'équipe de prédication, on parle des messages, on sait un peu où on s'en va. Je savais où on s'en allait avec ce message, mais quand j'écoutais Jonas prêcher, ça a suscité en moi un désir de prier davantage. Je lui ai écrit un message parce que je n'étais pas là dimanche passé et je lui ai dit « Bro », parce que je lui ai dit comme ça. « Ton message m'a poussé sur mes genoux, c'est incroyable, j'ai encore plus de zèle pour la prière, je te remercie. Si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous encourage à aller l'écouter. » Et dans ce contexte, il a posé une définition de travail pour la prière. Parce qu'on a tous une idée un peu de ce que c'est que la prière. On a tous plus ou moins une définition. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on va s'entendre. Puis il y a des choses où on va un peu être différents les uns les autres. Et puis, du coup, on vous propose une définition qui nous accompagne dans cette série. Et c'est une définition proposée par John Mark Comer qui dit la chose suivante. La pratique de la prière, c'est d'apprendre à mettre du temps à part pour être intentionnellement avec Dieu, dans le but de devenir comme lui, et d'être partenaire avec lui pour ce qu'il nous appelle à faire dans ce monde. Ça, c'est comme on décide de définir la prière pour cette série. C'est une pratique, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qu'on fait, et c'est une pratique dans laquelle on met du temps à part pour être avec Dieu de façon intentionnelle, afin de devenir partenaire avec lui, de passer du temps avec lui, de devenir partenaire avec ce qu'il nous appelle à faire. Puis il y a pas mal de choses que Jonas a dit, puis j'aimerais juste les souligner parce que c'est un bon cadre pour la suite, pour ce qu'on va voir ensemble ce matin. La première des choses que je veux souligner, c'est qu'il a dit la prière, c'est un privilège et pas un devoir. Très souvent, en tant que chrétien, on prend la prière comme un devoir, mais lui dit non, c'est un privilège que de passer du temps avec Dieu. La deuxième des choses qu'il a dit, que je veux rappeler ici, c'est que le but de la prière, ce n'est pas la puissance, ni faire plaisir à Dieu, mais passer du temps avec lui. Afin d'être comme Jésus, de devenir comme Jésus et de faire ce que Jésus faisait. Être avec Jésus, devenir comme Jésus et faire ce que Jésus faisait. Deux, trois autres pépites du message de la semaine passée. Ta vision de Dieu va définir si ta vie de prière va grandir ou mourir. Selon comment tu vois Dieu, ça va te donner un désir d'aller vers lui puis de prier. Ou alors ça va te mettre du poids, de la culpabilité, puis tu vas de moins en moins prier. Et dans ce contexte, il a dit « Dieu est un Père aimant et bienveillant, accessible et présent pour chacun de nous. » Et c'est avec cette vision que nous voulons le prier. Et je profite, c'est frais, mais vous avez vu l'image de mon fils qui voulait rester avec moi. C'était un Père bienveillant, aimant, avec qui tu passes du bon moment, tu as envie de rester avec ce Père-là. Si tu ne vois pas Dieu comme ça, ça peut être difficile de prier. Est-ce qu'il croit que je suis digne? Est-ce qu'il croit que je suis capable? Est-ce que j'ai quand même le droit de revenir? Seigneur, je te demande pardon pour la dernière fois. Est-ce que je peux, s'il te plaît, m'approcher de toi? Ta vision de Dieu va influencer ta vie de prière. Et puis finalement, la chose qu'il a dit, c'est nos prières font la différence. Et là, il a dit une réalité, et c'est à partir de là que je vais continuer ce matin. Il a dit, ta prière n'est pas puissante, mais celui que tu pries est puissant. Et ta prière ne peut rien changer. Celui que tu pries, par contre, peut tout changer. Et avec cette réalité, il nous disait, notre prière fait la différence, nos prières font la différence. Maintenant, il y a eu deux personnes qui ont dit, amen, frère. Preach it. Parce que les autres, vous êtes encore en train de vous réveiller. Ça va venir. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu crois vraiment que ta prière fait une différence? Réponds pas là. Mais vraiment, est-ce que tu es convaincu au plus profond de toi que ta prière fait une différence? Lève pas la main ici. Mais combien de personnes ont déjà prié et ont eu cette impression que leurs mots allaient toucher le plafond pour ensuite s'écraser au sol? Combien de personnes ici ont déjà prié en se disant, mais est-ce que simplement c'est des mots que je dis dans le vide? Personne n'est de l'autre bout, personne n'écoute ce que je suis en train de dire. Est-ce que personne ici s'est déjà demandé, est-ce que finalement si je prends du temps ou pas de temps, si je dis quelque chose ou pas, est-ce que ça fait une quelconque différence? Je sais que moi, ça m'est arrivé de vivre des moments de prière où j'ai eu ces questions. Alors je ne te demande pas d'être trop vulnérable là maintenant. Mais ça m'est arrivé de me demander, est-ce que Dieu m'écoute? Ça m'est arrivé de me demander, mais s'il m'écoute, pourquoi est-ce qu'il est si lointain et il semble tellement indifférent à ma prière? Moi, ça me pèse, je lui dis ce qui m'arrive, et j'ai l'impression que c'est le néant en face. Parfois, j'ai prié et j'ai vu des réactions quasi immédiates. J'ai vécu des miracles dans la prière incroyables. Je me souviens de cette fois où on priait pour quelqu'un qui avait une rage de dents et puis c'était des douleurs atroces. Il se tenait la tête, on a prié et son sourire qui arrivait, les larmes qui ont commencé à couler, plus de douleur du tout, d'un coup comme ça. C'était complètement fou. Même moi, j'étais là, t'es sûr? Est-ce que tu as pris un médicament il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu crois que c'est vraiment, je pense que ça va faire la différence, mais vraiment à ce point? Déjà, écoute, reviens me voir dans quelques heures, est-ce qu'il n'y a toujours plus de douleur? Tu es vraiment sûr de ça? J'ai vu des miracles incroyables se passer suite à la prière. Puis il y a d'autres prières, le miracle a pris un peu plus de temps. Des fois une semaine, deux semaines. Puis il y a d'autres prières, ça fait des années que je les prie. Il y a même certaines prières, ça fait des décennies que je les prie. Je suis là, est-ce que Dieu, vraiment, est-ce que... Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Le même Dieu qui a réagi aussi vite, qui est capable de tout, pourquoi est-ce que là, ça semble tellement silencieux? Si la prière est un privilège, pourquoi est-ce que si souvent j'ai l'impression que ça ne fait aucune différence? Pourquoi est-ce que si souvent j'ai l'impression d'être seul? Et permettez-moi juste un instant d'aller encore plus loin. On dit souvent que Dieu est omniscient. Ça signifie qu'il sait tout. On dit aussi qu'il est omnipotent, tout-puissant, qu'il est capable de tout. Alors, le philosophe en moi dit, à quoi bon prier? Si Dieu sait tout, et si Dieu peut tout, pourquoi ma prière ferait une quelconque différence? Et des fois, le philosophe en moi s'est trouvé à faire, tu sais, des prières vraiment bizarres avec Dieu. Je me suis dit, là, Seigneur, j'ai envie de te dire, mais je sais que tu sais déjà ce que je veux te dire. Alors, vas-y, devine, Seigneur, dis-moi ce que tu voudrais. Ça m'est arrivé de faire des trucs comme ça avec Dieu. Montre-moi, est-ce que tu sais vraiment? Si tu sais ce que je veux te dire? Est-ce que je peux te surprendre? Est-ce que ça t'intéresse ce que j'ai envie de dire? Et j'aimerais parler avec vous de ça ce matin. J'aimerais aborder un petit peu ces questions. Et on va bien sûr commencer par lire la Bible. Alors, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Luc 22 pour ceux qui ont des Bibles. Si vous avez une Bible, faites-moi un signe, même si c'est votre téléphone. Oh, nice! C'est tellement bon d'avoir des Bibles avec nous aujourd'hui. C'est un privilège aussi. Hein. Il y a plein d'endroits dans le monde où on ne peut pas librement dire « j'ai une Bible là ». Et avant qu'on la lise, j'aimerais juste vous dire mon but et mon cœur et ce que j'ai vécu dans la prière concernant ce message cette semaine. Mon but, c'est que nous puissions avoir une foi renouvelée dans la puissance et l'importance de la prière. J'aimerais qu'on ait comme une espérance renouvelée. Non, mes prières font vraiment une différence. C'est important, puis je vais vous donner des clés par rapport à ça. Et c'est le titre de mon message, « Quand la prière fait une différence ». Quand la prière fait une différence. On est à Luc, au chapitre 22, on va lire les versets 39 à 44. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, Luc est un des biographes de Jésus, donc on est vraiment dans la vie de Jésus, et vous verrez, on est plutôt vers la fin de son temps sur terre. Je lis, puis je vous donnerai un peu plus d'informations juste après. Luc 22, les versets 39 à 44. « Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, on parle ici de Jésus. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Beaucoup, vous avez reconnu le moment dans la vie de Jésus dans lequel on est. C'est un moment assez célèbre, assez connu. C'est les instants qui précèdent son arrestation, avant tout ce qu'on va appeler le calvaire de Jésus. Il vient de vivre un dernier repas avec ses amis. Dans ce dernier repas, il leur annonce une fois de plus qu'on va le trahir. Il part prier et littéralement, si vous continuez les versets suivants, c'est son arrestation. C'est un moment intense de la vie de Jésus. C'est un moment pas facile. Et Jésus sait que son temps sur terre arrive à un terme. Encore une fois, il le sait. Il n'a pas de surprise par rapport à ça. Il l'a annoncé à ses amis, il l'a annoncé à ses disciples, il a dit qu'il fallait que ça arrive, et là il sait que c'est le temps qui est en train d'arriver. Je crois que c'est assez évident d'imaginer que cette prière n'est pas facile. Elle n'est pas simple pour Jésus, c'est une prière intense. Puis Luc nous montre cette intensité en soulignant que même physiquement, Jésus était dans une angoisse et que cette prière était violente pour lui-même. Et au passage, Luc, on l'appelle aussi des fois le docteur, c'est une personne qui donne des détails. Si on était chez Jean, puis que Jean nous disait que Jésus avait tellement prié que sa sueur devenait du sang, se mélangeait à ses larmes, on dirait, bon, Jean, il est un peu romantique. Mais Luc, là, Luc, c'est le gars des détails. Donc si Luc nous dit ça, ça veut dire que vraiment, cette prière, physiquement, elle était intense pour Jésus. Et pensez-y un instant, cette prière, si on sort de ce qu'on connaît, si on sort de ces éléments racontés, de la narration de tout ce moment, cette prière semble presque illogique. Pourquoi Jésus fait cette prière? Encore une fois, je le répète, mais il sait ce qui va se passer. C'est la raison même pour laquelle il a décidé de venir sur terre. Il sait que ça allait arriver, il sait que le moment était arrivé, il sait tout, comment ça va se passer, pourquoi est-ce qu'il se met à prier à ce moment-là? Si on enlève le moment émotionnel, c'est illogique en fait. Mais gars, tu le sais là. C'est pour ça que tu es venu. Tu connais le projet, tu sais ce qui va se passer, pourquoi est-ce que tu pries? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes à découvrir pour nous dans cette prière, en lien avec cette notion de prière qui font la différence. Et je crois que Jésus incarne ici quelque chose avec force, c'est ce que j'ai appelé l'invitation au partenariat. Je crois que Jésus nous montre le fait d'accepter d'être partenaire avec ce que Dieu fait. C'est ce qu'on appelle parfois la voie médiane, vous allez beaucoup m'entendre parler de voie médiane aujourd'hui. Puis c'est une posture qu'on devrait adopter en tant que disciple, mais qui est très difficile à adopter, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Même en français, quand je dis la voie médiane, vous dites, de quoi est-ce que tu parles, Yves? Pour nous, il y a deux alternatives en général. Il y a la voie active et la voie passive. Ça, c'est ce qu'on connaît, nous. Soit vous êtes actif, soit vous êtes passif. Puis en fait, Jésus nous montre qu'il y a une autre possibilité. Je vois vos yeux, je vais expliquer un peu plus. C'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas après de faire des longs messages, hein? Nous, on est souvent habitués à la voie active. Je, en tant que sujet, initie une action. Je donne un conseil. D'accord? L'autre alternative qu'on connaît, c'est la voie passive. Je reçois quelque chose ou quelque chose m'arrive à moi. Je ne suis pas l'initiateur. On me donne un conseil. Vous voyez la différence active-passive, ça va? D'accord, ça va. Il y en a, c'est déjà difficile, alors attention, accrochez-vous. Hein. En grec ancien, il existe une troisième alternative qu'on appelle la voie médiane. Je suis un acteur qui participe à une action qui n'a pas été initiée par moi-même. C'est très intéressant. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui prend place, qui n'est pas de mon fait à moi, mais je deviens participant à ce qui est en train de se passer pour voir l'accomplissement. Je ne suis ni acteur principal, mais je ne suis pas non plus passif. Et ça, c'est le partenariat, c'est l'idée même du partenariat. Je me joins à l'action de quelqu'un d'autre. Alors voilà comment Eugene Peterson en parle. Si vous ne connaissez pas Eugene Peterson, c'est un pasteur, maintenant il est décédé, pasteur théologien, vraiment intéressant, et qui m'a pas mal accompagné ces dernières années. Il dit la chose suivante. La prière et la spiritualité impliquent la participation. La participation complexe de Dieu et de l'humain, de sa volonté et de nos volontés. Écoutez bien. Nous ne nous abandonnons pas au flot de sa grâce et nous ne nous noyons pas simplement dans l'océan de son amour en perdant notre identité. Mais nous ne tirons pas non plus des ficelles qui forceraient Dieu à agir dans nos vies. Nous ne manipulons pas Dieu, ce serait la voie active, et nous ne sommes pas manipulés par Dieu, ce serait la voie passive. Nous sommes impliqués dans l'action et nous participons à ses résultats, mais nous ne la contrôlons pas et nous ne la définissons pas, c'est la voie médiane. Et il termine en disant « La prière se déroule dans la voie médiane. » Et cette prière de Jésus est exactement là. Ça nous permet alors à ce moment-là une autre lecture. Ce n'est pas simplement illogique ce que Jésus faisait. S'il prie avec cette idée de la voie médiane, cette prière fait toute la différence. On écoute encore, écoutez la prière de Jésus. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus n'est pas l'acteur, ce n'est pas lui le héros principal. C'est moi qui décide ce que je fais quand je veux, comme je veux, puis Dieu doit faire ce que moi je lui dis de faire. Mais il n'est pas simplement passif en disant oh, « Seigneur, tout ce qui m'arrive, regarde, il est dans cette voie médiane. Je reconnais que tu fais quelque chose, Seigneur. Donne-moi la force de participer à ce que tu fais et d'être partenaire de ce que tu veux faire. » J'aimerais souligner trois choses qui, à mon sens, devraient dynamiser notre vie de prière si on comprend cette voie médiane. Vous êtes prêts? C'est les fameux trois points de Yves, hein, si jamais. Comme ça, vous savez où on en est dans le message. Notre volonté est toujours plus petite que sa volonté. Quand on embarque dans une vie de prière et qu'on veut vivre une vie de prière qui fait la différence, il faut toujours se rappeler que notre volonté est toujours plus petite que sa volonté. Ce qu'il y a de très intéressant ici, c'est que dans la prière, on n'a pas besoin de nier notre volonté. On n'a pas besoin de prétendre que nous n'avons pas de volonté. Mais on décide de se soumettre à sa volonté. Et il y a une saine soumission. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas Dieu, tu m'empêches de faire ce que je veux, tu me forces à faire des choses. Non, c'est je reconnais que tu fais quelque chose, puis je veux me joindre à ce que tu es en train de faire. On reconnaît nos désirs, mais on décide de s'aligner à ses désirs à lui. Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. Il commence cette prière en disant, « Papa, j'aimerais bien autre chose. » Ça, je l'ai traduit en langage 2023, version pour les nuls. J'ai pas envie de ça, Seigneur. Ça, c'est ce que dit papa. Si on pouvait avoir une autre alternative, ce serait pas déplaisant. C'est la version bougie, un peu. Mais juste après, candle. Okay. Anyway, on en parle après. Il dit, Seigneur, je reconnais que tu fais quelque chose, puis en ce moment, ce que moi je désire, ce n'est pas aligné à ce que toi tu veux, alors tu sais quoi, je veux m'aligner à ce que toi tu décides. Pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est fascinant parce que parfois on approche la prière comme si on devait dire à Dieu ce qu'il devait faire. Comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui se passait. Seigneur, j'ai un scoop pour toi, tu ne vas pas croire ce que mon boss m'a dit, t'sais. Et du coup, si c'était possible que j'aie une promotion malgré tout, puis tu abordes la prière comme si toi, tu avais les meilleures idées, les meilleures choses, les meilleures alternatives, puis tu veux dire à Dieu ce qu'il doit faire. D'autres fois, on aborde la prière comme si on devait prouver des choses à Dieu. Seigneur, comme tu le sais peut-être, si tu m'as regardé cette semaine, j'ai jeûné 5 repas. J'espère que tu as noté. Notamment la fondue avec la famille. Dès lors, je trouverais intéressant qu'on puisse repenser à cette promotion. Comme si maintenant j'ai mérite, j'ai fait des choses, je mérite des choses. Puis moi, j'avais un peu cette idée plus jeune. Parce que j'ai été comme balancé dans... Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai été comme lancé dans une marée chrétienne, dans une eau très profonde chrétienne. Et je voyais plein de gens faire plein de choses que je n'avais jamais compris 2 semaines auparavant. Et une de ces choses, c'était le jeûne. Donc deux semaines auparavant, je ne savais pas qu'on pouvait jeûner, parce qu'aujourd'hui, le jeûne, c'est trendy, hein, même en dehors de l'église. Mais il y a 25 ans, ce n'était pas si trendy que ça. Et donc, il y a des gens qui décident, « Ouais, je vais faire le jeûne de Daniel. » Et je me suis dit, « Daniel, c'est qui? Il est dans l'église? Je ne connais pas. » Après, quelqu'un d'autre, « Ouais, même je sors d'un jeûne d'Esther, je comprends. » une autre fille de l'église que je ne connais pas encore, c'est trop bien, il y a beaucoup de monde ici qui jeûne, alors c'est quoi ? Puis après, je voyais les gens qui faisaient des jeûnes, et puis des jeûnes intenses, et puis qui parlaient de leur jeûne, des 40 jours de jeûne, des trucs. Et moi, je me suis dit, peut-être si tu jeûnes, peut-être tu peux demander des choses folles à Dieu. Si tu fais la prière normale du soir, tu lui dis juste, Seigneur, je te remets la journée, je te demande que demain ça se passe bien, si je ne peux pas avoir des cauchemars. Mais si tu jeûnes, tu peux faire des prières plus, tu vois. Tu peux commencer à demander des choses à Dieu, à changer les choses. Puis j'avais très rapidement compris qu'il y avait une prière qui pouvait déplacer les montagnes. Je me suis dit, ça c'est sûr, c'est une prière dans le jeûne, ça c'est pas possible autrement. Tu ne peux pas juste demander à une montagne de se déplacer si tu n'as pas jeûné. Imagine qu'est-ce que Dieu va penser. Et j'en étais arrivé à penser que, tu sais, si j'ai sauté un repas, en fait, Dieu me devait des choses. Par après, j'ai commencé à me dire, en fait, Dieu, j'ai quand même jeûné là. Et j'ai même fait deux repas dans la journée. Si tu pouvais juste faire semblant de m'écouter, ce serait cool. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu crois vraiment que tu es capable de forcer Dieu à quoi que ce soit ? Elle a dit, non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais quand même, j'ai jeûné, pourquoi il n'a pas répondu? Puis là, il m'a dit, parce qu'il me parlait les mots que je comprenais moi, il m'a dit, le jeûne, c'est pas tordre le bras à Dieu et le forcer à quoi que ce soit. Alors ça m'a embarqué dans toute une réflexion sur le jeûne et sur la prière et tout ça, mais parfois on aborde la prière comme si notre volonté était plus importante que sa volonté. Comme si nous savions plus. Puis j'ai envie de vous dire ça parce que je crois qu'il doit venir une forme de libération dans notre vie de prière, quelque chose, une liberté nouvelle dans notre vie de prière, où on réalise qu'on n'a pas besoin de prouver à Dieu quoi que ce soit, on n'a pas besoin de lui montrer qu'il doit ou qu'il devrait faire quoi que ce soit, que ce n'est pas par rapport à quel point je suis bien, pas bien, mieux ou quoi, que peut-être il devrait m'écouter un peu. Ce n'est pas une négociation avec Dieu, la prière, où à partir d'un moment, j'ai débloqué des niveaux et puis du coup, Dieu, il est un peu moins fort, tu sais. Non, pas du tout ça. Mais ça ne signifie pas non plus, puis ça j'ai vu aussi dans certains contextes chrétiens, dans d'autres piscines où j'ai été plongé chrétien, où les gens disaient « je ne veux rien ». Moi j'ai arrêté, c'est seulement à la volonté de Dieu, tu sais, moi j'ai plus de volonté. Et vraiment je me disais « mais comment ils font ? Mais comment ils font pour ne rien désirer ? Pour ne rien vouloir ? Non, tu sais, c'est Dieu seulement maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et moi j'étais jeune et je me disais « mais comment tu fais ?» quand il y a Snickers, Twix et Maltesers devant toi, pour dire « j'ai pas de volonté ». Comment c'est quel niveau de spiritualité ici ? Puis j'ai compris que c'était tout à fait faux aussi, que Dieu nous avait fait avec des désirs, les amis. Dieu nous a fait avec une volonté, Dieu nous a fait avec des désirs, Dieu nous a fait avec des passions, des choses qui nous animent et qui ne nous demandent pas de les nier. C'est pas que je manipule Dieu, mais c'est pas non plus que Dieu me manipule. Ma volonté existe, mais elle est plus petite que sa volonté. Et je dois, dans ma vie de prière, consciemment, me rappeler ça. Et ne pas avoir honte de ma volonté, ne pas avoir peur de ma volonté. Jésus commence sa prière en disant ce qu'il veut. Si on pouvait éloigner cette coupe, alors c'est les mots de Jésus, je sais que tout le monde ne comprend pas, il ne parle pas de boire ici. Quand il dit, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, il est en train de dire, si on pouvait trouver autre chose que moi qui dois mourir sur une croix. J'aimerais pas mourir sur cette croix. Mais ensuite, il continue, mais Seigneur, tu sais mieux que moi ce qu'il faut. Tu sais mieux que moi les choses, puis je veux m'aligner à ça. Si seulement nos prières pouvaient commencer en disant, voilà Seigneur ce que j'aimerais. Voilà ce que moi je suis en train de vivre. Voilà ce que moi je suis en train d'expérimenter. Et si elles pouvaient se continuer en disant, mais Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance dans ce que toi tu dis. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Afin que nous puissions nous aussi dire que ta volonté soit faite. La deuxième chose qu'on voit aussi et qu'on devine, et il faudrait que je prenne plus de temps pour en parler, mais dans cette prière-là en particulier de Jésus, et si on veut vivre d'une prière qui fait une différence, nous sommes poussés vers l'intimité. Cette réalité de la voie médiane nous pousse vers l'intimité. Si Dieu est à l'œuvre, et si Dieu est en train de faire quelque chose, et s'il m'invite à participer à ce qu'il veut faire, et que moi je veux soumettre ma volonté à sa volonté, ce n'est pas possible si je ne suis pas proche de lui. Ce n'est pas possible si je ne suis pas proche de lui. Est-ce que vous avez déjà été dans la confidence de quelque chose ici ? Quelqu'un a déjà reçu une confidence ? Je ne vais pas vous la demander, là, n'ayez pas peur. Mais si personne n'a reçu des confidences, je me demande vos capacités sociales, les amis. Hein. Moi, c'est Social Skills 101, tu sais. Que quelqu'un te fasse confiance. Si vous avez déjà une confidence, c'est un moment particulier. Il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui dit hey, venez voir, j'ai juste un truc à te dire. Alors, je ne te parle pas des ragots, là. Je te parle des bonnes confidences. Juste un truc à te dire, juste un truc à te dire. Puis là, tu dis ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dis-moi. Et nous, on a ce privilège avec Janet, souvent, une des confidences qu'on a souvent, c'est quand les gens attendent un enfant. Souvent, on fait partie, après les familles, des premiers à qui on nous raconte hey, on a un enfant, que ça arrive, ça s'approche. Wow, c'est incroyable, on est content avec vous, les amis. Puis Janet et moi, bien sûr, parce qu'on se connaît, on dit à quel point c'est confidentiel. Je ne sais pas que je le dise n'importe comment ou quoi, et tu vois, mais on se réjouit avec eux. Puis il y en a plusieurs, vous connaissez ici des couples qui ont eu des enfants ou quoi. Et quand il y a ça, tu sens que tu es particulier, tu sens que tu es spécial, tu sens qu'on te fait confiance. Ça nous permet à ce moment-là de nous réjouir, ça nous permet de prier pour les gens, ça nous permet de discuter avec eux, mais aussi de les soutenir. La voix médiane dans la prière, c'est comme une invitation à être dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible de dire que ta volonté soit faite si tu ne connais pas sa volonté. Et ce n'est pas possible que tu connaisses sa volonté si tu es loin de lui. C'est sans doute pour ça que Jésus, quand il nous enseigne à prier, il commence à dire « C'est un bon père, les amis, Abba ». Qu'on a traduit notre père, mais c'est Abba. C'est un bon père, allez vers lui, faites-lui confiance, il a envie de vous dire des choses, il a envie de passer du temps avec vous. Et du coup, tu peux entendre le cœur de Dieu, puis Dieu qui te fait confiance avec « c'est ça que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai envie, c'est là où j'ai envie de Seigneur, quel privilège !» Mais ça demande de l'intimité, la voix médiane nous invite à l'intimité, parce que tu ne peux pas participer à ce que Dieu veut faire si tu n'es pas proche de Dieu. Et si tu veux vivre une vie qui fait une prière, qui fait la différence, tu dois te rapprocher de Dieu. Et tu dois prier non pas pour que ta volonté s'accomplisse, non pas pour voir des fruits à ta prière, mais pour être proche de Dieu. Rappelez-vous, dans la working theory, dans la définition que je vous ai proposée au départ, et puis dans tout ce qu'on vous dit, c'est, la première des choses, c'est d'être avec Dieu. C'est à partir de là que cette vie de prière, elle entre en jeu. Dans son discours pour le prix Nobel de la paix en 1979, Mère Teresa a exprimé le fait que la raison pour laquelle elle recevait ce prix, ce n'était pas tellement les choses qu'elle avait fait intentionnellement ou ce n'était pas les choses qu'elle avait initiées, mais c'était le produit de sa vie de prière. Il est encore disponible, hein, si jamais ce discours, sur le site officiel des prix Nobel. Vous pouvez aller lire tous les discours de tous ceux qui ont reçu. Et je l'ai relu et c'est vraiment fou son discours. Il y a plein de choses folles dans son discours à la Mère Teresa, mais elle reçoit le prix Nobel pour la paix. Et puis elle dit littéralement, vous pensez qu'on est des gens qui faisons la justice, mais ce n'est pas du tout ça, on est des gens de prière. Et ce que vous voyez se produire au travers de notre vie, c'est simplement le fruit de notre intimité avec Dieu. Si on fait ces choses-là, c'est parce qu'on entend ce que Dieu veut faire et qu'il nous invite à participer à ce qu'il est en train de faire. Quel privilège! Mais ça demande une intimité avec Dieu, cette histoire-là. Dans cette intimité, puis dans cette voie médiane, on est poussé vers Dieu, là où Dieu veut être à l'œuvre, et souvent c'est un endroit de peine, les amis. Il y a ça qui se passe quand on embarque dans cette vie de prière qui fait la différence, puis dans cette prière de la voix médiane. En fait, très souvent, tu te rends compte que ce n'est plus tellement tes désirs à toi, mais c'est plutôt les désirs à Dieu. Puis tu réalises que Dieu te met à des endroits où si on t'avait demandé à toi, ou si on t'avait proposé à toi, tu aurais dit « Non, mais jamais je veux aller là-bas. » Parce que Dieu, là où il veut être le plus à l'œuvre, c'est là où il y a la peine. Parce que Dieu est un Dieu qui veut restaurer. Dieu est un Dieu qui veut amener la paix, Dieu est un Dieu qui veut amener l'amour, Dieu est un Dieu qui veut amener la guérison interne, profonde, mais la guérison externe aussi. Et du coup, c'est un petit peu, tu me connais peut-être pas, mais bon, prends-le comme tu veux. Ta vie de prière va rarement t'amener à l'église. Une vraie vie de prière, elle va rarement t'amener à l'église, en fait. Ta vie de prière, elle va t'amener là où il y a besoin de Dieu, en fait. Dans des endroits obscurs, dans des endroits sombres, dans des endroits de peine. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas tellement faire une vie de prière qui fait la différence. Là, c'est moi qui suis un petit peu piquant. Hein. Mais parce qu'on est bien entre nous, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Déjà, on se connaît déjà, on sait qu'on est d'accord. Mais Jésus, il a dit, je ne vais pas rester au ciel alors qu'il était sans doute bien. Je ne vais pas rester là, je vais aller là où ils ont besoin de moi. Écoute, comme c'est pas moi qui le dis, écoute ce que N.T. Wright dit. Plus de poids d'un coup. La vocation chrétienne est d'être en prière, dans l'esprit, là, à l'endroit où le monde souffre. C'est ça qui se passe quand tu commences à vivre dans cette intimité avec Dieu. Tu commences à comprendre. Et il y a des endroits où Dieu est en train de me pousser. Et je suis là, Seigneur, Pourquoi tu m'amènes là-bas? Tu sais que ce n'est pas là-bas que j'aimerais être. Alors on va recommencer à prier. Et souvent, je rebascule vers la voie active. Seigneur, j'ai une super idée. Laisse-moi t'en faire part, je pense que tu ne la connais pas encore. Quand tu découvres la voie médiane, tu ne cherches plus à dicter à Dieu ce qu'il doit faire, mais tu ne tombes pas non plus dans un découragement du fait que Dieu ne t'écoute pas. Tu es poussé à l'intimité afin de comprendre sa volonté et de pouvoir y participer. Que ta volonté soit faite. Et finalement, mon dernier point. Dans cette voie médiane, alors qu'on veut vivre une vie de prière qui fait une différence, on redécouvre non seulement notre mandat original, mais aussi la voie originale de l'Éden. La voie originale de l'Éden. J'allais appeler ça la voie édénique, mais je me suis dit, je suis déjà suffisamment conceptuel ce matin. Je vais les perdre. Donnez-moi un tout petit peu de votre temps, je vais vous expliquer ce que je veux dire. La voie médiane que je vous ai introduite dans la prière de Jésus, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané, que j'ai essayé d'expliquer dans ce grec ancien, entre la voie active et la voie passive. En fait, la voie médiane était la voie du récit de la création. C'est ce que vous trouvez de la part de l'humanité dans tout le récit de la création avant la chute. Donc la Genèse, ça signifie le commencement, c'est le début de l'histoire du monde. Et on voit Dieu qui crée le monde, Dieu qui crée toutes les choses, puis Dieu qui met en place l'humanité, Adam et Ève. Et puis on voit la participation de l'humanité avec Dieu dans le projet de Dieu. Puis ces deux chapitres de la Bible, Genèse 1 et 2, puis au chapitre 3, il y a la chute qui arrive. Si vous relisez le poème de la création, vous découvrirez que les humains étaient à l'action. Les humains, ils n'étaient pas passifs. Des fois, on a une mauvaise image du jardin d'Éden. On imagine que Adam et Ève sont nus sur une plage à siroter des mojitos et à faire l'amour. Sans doute qu'ils ont vu des plages, ils étaient nus, ça c'est sûr. Ils ont fait l'amour, ça c'est sûr. Les mojitos, je n'en sais rien. Mais une autre chose qui est sûre, c'est qu'ils ne faisaient pas rien. Si tu lis, c'est évident, ils ne faisaient pas rien. Ils devaient nommer les animaux, ils devaient s'occuper du jardin, ils devaient dominer sur la création. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que rien de ce qu'ils ont fait n'a été initié par eux. Le récit est on ne peut plus clair, c'est Dieu qui a tout initié. Et alors que Dieu initie tout, il met les humains et il dit « devenez partenaires de ce que je suis en train de faire ». Et du coup, on voit cette participation active qui est en fait la voie médiane. Adam et Ève, c'est génial, les animaux que tu as créés, celui-ci est bizarre, on va l'appeler un éléphant. Et ils deviennent acteurs participants de ce que Dieu a initié et de ce que Dieu veut faire. C'est incroyable comme tu as organisé les choses. Et puis, regarde, on va essayer d'organiser le jardin et le monde afin que la culture puisse arriver, afin que des choses puissent naître. C'est exactement ça. Rien de ce qu'ils faisaient n'avait été initié par eux. Tout était mis en place par Dieu, mais Dieu les invitait à participer. Et la voie médiane, c'est littéralement le langage qu'on trouve tout du long du poème de la création. Au moment du péché, c'est le moment où la voie active est arrivée. Le moment du péché, c'est le moment où l'humanité a dit « Nous, on sait mieux. Et nous, on va faire. » Et c'est eux qui initient quelque chose que Dieu n'avait pas demandé, que Dieu n'avait pas proposé, que Dieu ne voulait pas. Et quasiment en même temps que la voie active est arrivée, la voie passive est arrivée aussi. Si vous regardez dans les détails, vous verrez que quand Dieu confronte Adam, sa réponse c'est quoi? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi je suis passif, j'ai rien à voir dans cette histoire. Donc tout du long de la création qui est merveilleuse, qui est un blueprint pour nous de ce qu'on devrait vivre, rechercher, on voit cette voie médiane. Mais au moment où le péché arrive, on voit la voie active et la voie passive. La voie médiane, c'est à nouveau être participant de ce que Dieu veut faire, conscient d'un privilège immense de pouvoir participer à son action. Encore une fois, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. J'ai pas mal été conceptuel ce matin. Et au début, j'avais une question pourtant très concrète. Plusieurs, vous avez réagi physiquement parce que c'est pas avec des « Ouais, amen, on est avec toi Yves », mais dans vos cœurs. J'ai senti votre énergie. Pourquoi est-ce que certaines de nos prières semblent comme jamais répondues? Pourquoi des fois c'est tellement difficile? Est-ce que nos prières font la différence? C'était la question de départ, n'est-ce pas? Puis j'ai envie de dire oui, nos prières font une différence. Mais je pense qu'une des choses, c'est qu'il faut qu'on redécouvre la prière dans la voie médiane, justement. Il faut qu'on redécouvre cette invitation à la participation de Dieu et puis qu'on décide, j'embarque dans le fait de participer avec ce que Dieu fait. C'est lui qui initie et je ne suis pas passif. Je suis fatigué des chrétiens passifs. Dieu fera les choses, Dieu fera les choses. Mais bon sang, il a fait les choses, c'est toi. Maintenant, toi, il faut aussi que tu sois. Mais ce n'est pas toi le super acteur, le super héros. Tu sais, des fois, on aime ces super héros puis on pense qu'on est le propre super héros de sa propre vie. Un jour, dans la vie de Yves. Yves décide d'être super cool. Yves fait des trucs super bien. Yves change le monde. C'est pas ça. C'est pas, oh, c'est Dieu qui fera, moi je fais rien. Et c'est pas non plus super Yves qui fait les super choses. C'est Yves qui découvre le merveilleux privilège d'être partenaire avec ce que Dieu décide de faire. Et du coup, ma prière qui fait la différence, c'est cette prière qui connecte avec Dieu. C'est cette prière qui va dans l'intimité avec Dieu. C'est cette prière qui dit, Seigneur, si c'est ça que tu veux, quel privilège? Comment est-ce que je peux participer? Laisse-moi faire partie de ce que tu veux faire. Se peut-il que nos prières semblent résonner dans le vide parce que nous sommes trop dans la voie active ou dans la voie passive et pas assez dans la voie médiane? C'est la question de conclusion pour vous ce matin. Et c'est une question qui n'est pas facile, les amis. Parce que je vous ai dit, il y a certaines prières, ça fait des décennies que je les prie. Du coup, moi-même, plusieurs fois, une de ces prières, c'est pour une personne extrêmement proche à mon cœur, qui vit une situation de santé difficile. Ça fait longtemps qu'il y a cette situation et je prie pour un changement. Puis je sais que c'est la volonté de Dieu parce qu'il n'est pas pour la maladie. J'ai aucun problème avec ça. J'ai dit, Seigneur, guéris-le, Seigneur, fais ça. Puis j'ai tout fait. J'ai fait tous les jeûnes que tu puisses imaginer, tous les jeûnes que tu trouves dans la Bible et même ceux qui sont extra-bibliques. Toutes les possibilités, toutes les démarches, toutes les actions qui pouvaient se faire, j'ai crié dans la prière, j'ai murmuré dans la prière, j'ai prié dans mon cœur, j'ai prié à 2, j'ai prié à 3, on s'est mis d'accord à 10. Et du coup, je suis là, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai grandi en frustration. Et aujourd'hui, avec cette personne, on découvre la prière dans la voie médiane. Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas compris que tu es en train de faire? Ouvre nos regards sur ce que tu te veux, toi. Et on lui donne toute notre peine, on pleure ensemble dans la prière. Regardez Jésus, les gouttes de sang. J'ai jamais pleuré des gouttes de sang. Mais on pleure, on est dans la souffrance. On dit, mais pourquoi? Mais encore cette semaine, j'étais au téléphone avec cette personne. Mais pourquoi? Mais jusqu'à quand? Il m'a raconté l'état de sa santé, tout ça. Et j'étais là. Mais une fois que j'ai fini ça, je dis, ta volonté est plus grande que la mienne, Seigneur. Révèle-moi ce que je n'ai pas compris. Montre-moi comment je peux participer à ça. Guide-moi. Et je crois que ces prières, les amis, font une vraie différence. Je crois que ces prières font une vraie différence parce que c'est le projet que Dieu avait depuis le départ pour nous. Se peut-il que nos prières résonnent dans le vide parce qu'on est trop dans la voie active ou dans la voie passive? Est-ce que nos prières naissent de l'intimité que nous avons avec Dieu? C'est une deuxième question pour vous en sortie de message. Est-ce que nos prières naissent de notre intimité avec Dieu? Je repense à l'exemple de Mère Teresa. Mais d'un coup, elle s'est mise à prier pour toute une catégorie de personnes. Elle a déménagé, elle a dédié sa vie. Et quand les gens disent « Bravo pour ce que vous avez fait », elle dit « À part prier, je n'ai pas fait grand-chose. » Est-ce que nos prières naissent de l'intimité avec Dieu? Alors, je termine avec une dernière citation. Vous pouvez remonter, les amis. Une dernière citation de nouveau Eugene Peterson, qui est vraiment l'auteur qui m'a introduit à cette voie médiane, puis que j'ai revu ensuite, puis étudié avec d'autres encore. Mais il dit la chose suivante. L'hypothèse de la spiritualité chrétienne, c'est que Dieu agit toujours et souvent bien avant que je le sache. Donc ma tâche n'est pas de contraindre Dieu à réaliser quelque chose qui devrait selon moi être fait, mais plutôt de prendre conscience de ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir y répondre, y participer et y prendre plaisir. Que ta volonté soit faite. Cette voie médiane, cette vie de prière qui fait la différence. Et j'ai envie de vous dire, vos prières font la différence. Mais je crois qu'il est grand temps qu'on redécouvre la voie médiane dans la prière. Qu'on arrête de vouloir manipuler Dieu, qu'on arrête d'avoir l'impression que Dieu veut nous manipuler, mais qu'on puisse entrer dans cette joyeuse participation. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite, ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas une façon de dire « je ne compte pas ». Mais c'est plutôt une façon de dire, permets-moi de comprendre, de réaliser, de participer à ce que tu fais. Je veux que ta volonté devienne ma volonté, Seigneur. Puis j'ai envie qu'on prie ensemble pour finir. On va ensuite chanter « Louer Dieu ». J'ai envie qu'on prie ensemble avant ça. Puis j'ai envie, on est dans une série qui s'appelle « Oser prier ». Puis j'ai envie de prier avec toutes les personnes qui, elles aussi, ont des sujets depuis pas mal de temps, qui les pèsent et puis qui sont durs et puis ils ne savent plus où aller, comment faire, est-ce que j'ai encore le droit de prier par rapport à ça, ce genre de sujet-là que j'ai évoqué plus tôt. Puis si tu es d'accord, je ne vais pas te demander c'est quoi le sujet, mais j'aimerais te proposer de te lever maintenant en disant « Yves, moi je fais aussi partie de ces gens qui ont des sujets depuis longtemps. Puis j'ai l'impression que ma prière ne fait plus aucune différence. J'ai tout essayé, j'ai tout bataillé, je ne sais plus quoi faire. » Si c'est ton cas, est-ce que tu es d'accord de te lever pour qu'on prie ensemble ce matin? Encore une fois, oser la prière. Merci. Rien de magique au fait de vous lever au passage. Dieu ne peut pas agir davantage parce que vous vous êtes levé. Et ça nous fait du bien à nous de savoir qu'on est ensemble là-dedans. Un instant, pensez à ce sujet, pensez à cette situation, peut-être c'est d'une personne, un individu, une situation, pensez-y un instant. Puis je vais vous inviter à un temps de prière guidé. Je vais vous donner un petit peu un temps, un cadre pour un premier temps dans la prière, puis ensuite on va prier ensemble. Puis le premier temps, c'est voyez Dieu comme un Père aimant, il se soucie de vous. Il a conscience de ce sujet, il n'est pas démuni par ce sujet. Puis on veut s'approcher vers lui en disant, « Papa, tu connais cette situation. Tu sais où j'en suis, tu sais ce qui anime mon cœur. Je veux venir vers toi comme un papa. » Peut-être c'est des choses, ça fait longtemps que vous n'avez plus osé prier ça avec Dieu. Alors dites-lui, « J'aimerais qu'on reparle de ça, Seigneur. » Puis maintenant, dans un deuxième temps, on va lui dire ce que nous, on aimerait. Ce que nous, on aimerait. Jésus a dit, moi, j'aimerais pas passer par là. Moi, je vous parle du sujet que j'ai évoqué. Seigneur, je te prie pour la guérison de cet homme cher à mon cœur. Moi, ce qui me pèse à moi, c'est sa situation de santé. J'aimerais le voir se réjouir et profiter. Ça, c'est ce qui anime mon cœur en ce moment, Seigneur. Dans un dernier temps, on va juste dire, mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça, Seigneur? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu as déjà dit? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On va laisser le Saint-Esprit maintenant nous parler. Il y a des choses qui ressortent pour vous, des pensées, des idées, des mots, des situations. Peut-être que c'est encore flou, mais on veut simplement dans cet état dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Sur cette situation, que ta volonté soit faite. Dans la vie de cet individu, que ta volonté soit faite. Dans cette relation brisée, que ta volonté soit faite. Terminer en disant, je veux être participant de ce que toi tu veux faire, Seigneur. Je veux être participant à ton projet, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux simplement conclure ce temps en reconnaissant avec chaque personne qui s'est levée. Il y a des sujets qui nous pèsent, Père. Mais je sais que tu es un Père aimant. Je sais que tu ne nous abandonnes pas. Je sais que nos prières font une différence et Seigneur, on veut se soumettre à ta volonté. On veut être acteurs, participants de ce que toi, tu veux initier. Que nous puissions dire oui et amen à ce que toi, tu fais. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais vous inviter tous à vous lever alors qu'on termine ce temps. Seigneur, apprends-nous à prier. Suscite en nous, Seigneur, une foi renouvelée dans l'efficacité de la prière. Non, la prière n'est pas illogique parce que tu nous appelles et tu nous as fait pour être des collaborateurs, Seigneur. Alors on veut croire à nouveau que nos prières font une différence. On veut te faire confiance et continuer à oser prier. Je te prie, Seigneur, que cette communauté, cette église, cette famille soit connue pour être une famille qui se tient dans la prière. Qu'on soit connu, Seigneur, pour être proche de ton cœur. Donne de l'audace, il y en a plusieurs, vous êtes appelés dans des régions, dans des endroits, dans des situations qui vous font peur maintenant. Seigneur, donne le courage d'aller là où il y a de la peine, là où tu veux agir. Que ta volonté soit faite, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.